Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Rebonjour. Alors, nous allons aborder un sujet, une réflexion thématique, si on peut dire. C'est un thème que nous allons découvrir tout de suite et vous verrez que c'est un sujet de tous les jours dans notre monde tel qu'il est. Alors, on va ouvrir, vous allez découvrir le sujet avec moi dans Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 21. Ça fait partie des grands discours, si l'on peut dire ainsi, de Jésus sur l'histoire du monde, l'histoire des hommes, et puis à la différence de ce que peuvent préconiser les hommes pour trouver des réponses et des solutions, eh bien, Jésus nous en parle d'une manière tout à fait particulière et nous allons voir ça ensemble. Donc, Matthieu 5, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Voilà, on va simplement s'arrêter là. La question qui est abordée, c'est l'affaire ou la question du meurtre, du crime. Et vous savez que, hélas, depuis toujours, les hommes se sont livrés à ce genre de choses abominables, de faire mourir son semblable. Alors, il ne se passe pas un jour, vous le savez aussi bien que moi, sans qu'il y ait finalement dans les journaux, les médias, eh bien, ceci ou cela, et autour de cette affaire. Et c'est terrible, parce que on s'aperçoit que le monde a été abreuvé de sang. Et ça se fait parfois sur le plan individuel, comme dans des temps de paix, hein, où des gens qui ne sont pas bien, eh bien, tuent leurs semblables, violentes, hein, éliminent pour des raisons qui sont les leurs, mais quelquefois, eh bien, ce genre de choses est organisé et à grande échelle. Alors, on appelle ça des guerres. Alors, ce sont des mots qui sont terribles, hein, c'est pas beau. Mort, combat, destruction, guerre et ceci et cela. Et là, à ce moment-là, il semblerait que le crime, le meurtre soit, eh bien, légitimisé, tout simplement. Dans des temps, c'est interdit, puis dans d'autres temps, on encourage. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et de difficile, parce que on comprend que le monde n'arrive pas à saisir. Alors, pourquoi on peut tuer dans certaines circonstances et que dans d'autres, eh bien, finalement, il faut surtout pas, hein, au risque d'être emprisonné et puis d'avoir, pour certains pays, eh bien, tout simplement, la même peine. Celui qui tue sera tué, hein, celui qui se sert de l'épée sera aussi détruit par l'épée. Enfin, voilà. Et je crois que Jésus, donc, parle, et lui, il va à la racine de l'origine du crime, du meurtre. Et il nous en parle de cette manière en faisant un rappel, parce que vous avez remarqué avec moi, il dit « Vous avez entendu dire par les anciens ». Alors, c'est vrai que le crime a toujours été quelque chose de proscrit dans les sociétés, parce que à partir du moment où il y a cet engrenage et cette spirale, et on l'a vu, où l'humanité a frôlé la destruction, a frôlé l'extinction, nous pourrions dire. Parce que une fois que c'est parti, comment arrêter? Et c'est le phénomène des guerres raciales, où on a voulu éliminer des races, tout simplement, on appelle ça le racisme, ou des peuples entiers. Et au sortir des grandes guerres que cette humanité pourtant civilisée a connues, eh bien, juste à la limite, il fallait que ça s'arrête, parce que c'est un véritable danger pour que l'espèce humaine survive sur cette planète, sur cette terre. surtout avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, et où on est capable, finalement, par la folie, par la haine, parce qu'il y a toujours cela derrière, hein, c'est le contraire de l'amour, la haine, hein, eh bien, d'enflammer le monde et de tout détruire. Et on en est capable. Alors, Jésus nous dit, mais moi je vais vous dire l'origine de tout cela, c'est la colère. Voilà. Peut-être que mon propos ne sera pas finalement de saison, si je peux dire, parce que personne d'entre nous s'est jamais mis en colère. Alors, voilà, donc je parle comme ça, hein, tout simplement. Mais toujours est-il que, voilà l'origine. L'origine, elle est là. Jésus nous dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, eh bien, il est passible du jugement. Et c'est vrai qu'on sait très bien que tous les meurtriers, les criminels, ne commettent pas leur acte de destruction au coin d'une gendarmerie ou auprès d'un commissariat de police, hein. Ils le font dans le noir, dans le secret, ils se dissimulent eux-mêmes derrière peut-être parfois, eh bien, hein, des déguisements, des masques, hein, voilà, tout simplement, eh bien, on fait ça en catimini, on laisse pas de traces. Mais on s'aperçoit que le cœur est là, finalement, qui va être le mobile, et il y a nécessairement derrière un jugement, parce que tout criminel ou tout meurtrier, son intérêt, c'est pas de se faire prendre. Hein, comme l'on dit, ni vu ni connu, et puis voilà, que ça disparaisse. Alors, moi je voudrais dire que tous les crimes qui n'ont jamais été élucidés depuis des siècles et des siècles, un jour seront mis à lumière devant tout le monde. Ça, il faut le dire, hein. Même si quelquefois, eh bien, on a fait intervenir, et souvent on fait intervenir la justice, où des hommes se sont penchés sur les faits, les preuves, etc., etc., mais quelquefois ça a été un petit peu... eh bien, soustrait, parce que, bon, ça implique trop de choses ou trop de gens compromettants, mais il faut bien dire que c'est la Bible qui nous le dit, que tous les crimes, sans exception, et tous les commanditeurs de crimes, parce que c'est pas eux qui le font, c'est pas les exécuteurs, ils font exécuter par d'autres, hein, et ça, c'est souvent à une haute échelle, hein, un degré qui nous dépasse, eh bien, tout cela sera mis à la lumière. Et c'est pourquoi, eh bien, il est parlé de jugement du meurtrier. Et ça nous interpelle. Alors, j'aimerais simplement, pour nourrir un peu notre réflexion, tu ne tueras point. Ça, c'est ce qui avait été dit hier. Et c'est quand même ce qui est dit aujourd'hui. Parce que ça reste valable. Parce que dans ce genre de choses, imaginez-vous, quelqu'un ou quelqu'une perd la vie. Et puis, c'est tout un engrenage de chagrin, de peine pour ceux qui restent. Surtout quand on ne sait pas. Vous savez, hein, quelquefois, il y a à la télévision des émissions, hein, d'enquête. Et puis, on arrive à retrouver après des années, on fait même des procès des siècles passés, vous comprenez ? Un essai de retrouver des traces et ceci et cela. Et parfois, eh bien là, les enquêteurs retrouvent. Et après... nombre de temps, nombre d'années, eh bien, on met la main sur les... s'ils sont encore vivants, naturellement, hein. Alors, c'est vrai que c'est comme si c'était un soulagement. On a retrouvé le coupable. On sait qui il est. Alors, c'est également l'histoire que nous allons maintenant partager ensemble, parce que à l'origine, naturellement, il y a une origine, parce que au départ, quand Dieu a créé le monde, la terre, l'humanité, le crime n'existait pas, figurez-vous. Ça n'existait pas, c'était totalement inconnu, la mort même n'existait pas. Alors, il y a dans l'évangile, non, l'épître de Jean, pardon, eh bien, un passage au chapitre 3, épître, et où il nous est dit ceci, et j'aimerais le lire avec vous avant d'aller un petit peu plus loin dans les origines mêmes de la passion criminelle des hommes. Et je lis ceci au verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Donc, je vous ai bien dit tout à l'heure que la haine, eh bien là, c'était le contraire de l'amour. Et c'est aussi la parole de Dieu qui nous dit que si les hommes savaient aimer, eh bien, il n'y aurait pas, finalement, ces choses. Ça ne serait pas possible. Donc, il y a là quand même une lacune, une carence qui est celui du non-amour, du rejet, tout simplement. Et il nous est dit, mais, et ne pas ressembler à Caïn. Et moi, je voudrais vous parler de Caïn. Parce qu'il est intéressant ce personnage par le fait même que c'est la colère qui a présidé finalement à son geste. Et à partir du moment où la colère prend le dessus, eh bien l'amour s'en va et la haine prend place. Et il nous est simplement dit que de ne pas rassembler à Caïn, qui était du malin, là nous avons déjà dans l'enquête que nous menons, eh bien un personnage qui porte un nom qui quelquefois a été mis un petit peu tourné en dérision, le malin, faire le malin, comprenez, jouer au malin, hein, jeu de main, jeu de malin, voilà. Alors donc, il nous est parlé du malin qui lui tua son frère, qui était du malin et qui tua son frère sous l'inspiration finalement du malin, et le mot malin vient du mal. Donc le bien, le mal, voilà. Donc tuer quelqu'un, c'est mal. C'est simpliste, hein, mais c'est quand même une réalité. Et il nous est dit, un peu plus loin, au verset 15, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » La haine par elle-même, Jésus dira, « Mais vous avez entendu dire que tu ne tueras point. » Mais moi, je vais vous dire que c'est la colère qui vous pousse, finalement, à ce geste irréversible, qui va emporter une vie, mais qui va peut-être vous priver de la vôtre. Parce que... hein, on connaît les rudiments et les principes de la loi dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, tu as tué, tu seras tué, voilà, et c'est la grande spirale infernale de la vengeance, c'est ce qui se passe en temps de guerre, hein, vous voyez vos camarades et votre ami qui est tué à côté de vous, bah, automatiquement vous avez là instinctivement envie de, bah, finalement de vous venger, ou de faire justice, c'est ça le chose qui se produise. Alors quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ouais. Ça c'est la sanction de Dieu, c'est pas la sanction des hommes. La sanction des hommes, ça peut être l'emprisonnement, ça peut être le bagne, la prison à vie, ça peut être la guillotine naturellement, hein. Mais là, il est question d'une punition ou d'un châtiment qui va au-delà de cela. Parce que la vie, elle est sacrée. C'est Dieu qui l'a finalement, eh bien, instituée. Et on n'a pas le droit de toucher à la vie d'autrui. Et puis, dans le livre des Hébreux, avant d'aller retourner voir un petit peu Caïn. Alors, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, je mets en place un petit peu la réflexion, là. Au chapitre 11 et verset 4, il nous est dit quelque chose d'intéressant. C'est par la foi qu'Abel, voilà, celui qui a été finalement assassiné. Donc il s'appelle Abel, assassiné. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ouais. Ce qui nous montre quand même quelque chose de particulier après tous ces mots que nous avons cités. La colère, à travers la haine, dont le contraire est l'amour, je le répète, là il est question de la foi. Et c'est vrai que on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans tout cela? Parce que quand vous suivez un petit peu l'histoire de Caïn à travers la Bible, eh bien, ce sont les références qui nous sont données, dans le Nouveau Testament particulièrement. Et il nous est parlé, c'est par la foi que celui qui est assassiné, eh bien, a offert à Dieu un sacrifice. C'était pas le sacrifice de sa vie, parce que là, c'est, pourrions dire, le fait de, hein, de son frère. Et il nous est dit que par la foi, à cause de sa mort brutale et violente, eh bien, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Vous savez, souvent, les gens veulent assassiner d'autres parce qu'ils parlent de trop, ou on les empêche de parler en les tuant. Ben, vous avez la preuve du contraire. C'est que, peut-être sur la terre, ils ne parlent plus, mais au ciel, ils parlent encore. Et là, ça peut être véritablement gênant, parce que sur la terre, c'est temporaire, ou temporel, mais au ciel, c'est éternel. Alors, ça, c'est à prendre en considération, parce que on s'aperçoit qu'on ne se débarrasse pas des choses comme ça. On ne peut pas enfouir, on ne peut pas... Oui, sur la terre, c'est possible. On peut dissimuler, on peut évacuer, on peut faire toutes sortes de choses. Mais dans la dimension où Dieu la voit, où nous sommes placés dans notre réflexion, eh bien, c'est autre chose. Et nous voyons que ce qui a suscité, et on va le lire d'ici un instant, ce qui a suscité dans le cœur de Caïn, eh bien, cette colère... allié à la jalousie, c'était une offrande. C'était quelque chose qui avait un caractère cultuel, on l'a dit ce matin, un caractère d'adoration, et figurez-vous que c'est ça qui a déclenché, eh bien, le geste meurtrier de Caïn. Et l'un l'a fait par la foi, et cet acte a plu à Dieu, et l'autre, ben, probablement, ça devait être le contraire. Ça devait être forcément le contraire. Alors maintenant, je vous invite, on va s'étendre un petit peu plus sur le cas de Caïn, parce que c'est un personnage que l'on a souvent entendu parler, les Caïn, les Judas, tout ça, ça fait à peu près de la partie de la même famille, vous comprenez? Hein, il y en a eu d'autres comme ça dans toute l'histoire biblique, et à tel point que certains ont dit, mais la Bible, c'est qu'une histoire, pas possible, vous vous rendez compte? Il y a que ça. Il y a que d'histoires de crimes, il y a toutes sortes de choses, mais il y a des raisons. Il y a des raisons, non pas pour nous inciter à la haine ou à la colère, mais pour nous inviter finalement à l'amour. Parce qu'autrement, on n'y échappe pas. La foi, l'amour, hein, de s'aimer les uns les autres, c'est ce que Jésus nous dit. Premier commandement, le plus grand de tous les commandements. Alors, figurez-vous, on va regarder maintenant dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et au verset 1er. Et on lit cette histoire qui nous renseigne peut-être un peu davantage. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, on n'a pas à se tromper, chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Et là, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel, et l'enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et là, à ce moment-là, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La contrariété, la vexation, quelque chose qui semblait insurmontable pour lui. Et l'Éternel a parlé donc et lui a dit, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est la première fois que nous voyons ce mot apparaître dans la Bible et tout au début de l'histoire de l'humanité. Et il le tua. Quand on regarde les choses comme ça, on pourrait dire, mais c'est vraiment pas une affaire pour tuer quelqu'un. Mais vous savez, on peut tuer pour n'importe quoi, hein. Et on peut tuer des gens qui ne sont absolument pas vos ennemis, hein. Il y a des homicides involontaires. Bon, ça arrive tous les jours, hein, les accidents de la route, hein. On ne vise pas quelqu'un en particulier, mais par les infractions, par l'alcool, la vitesse, l'inconscience et toutes sortes de choses, ça peut faire des choses, ça peut créer des situations abominables et terribles. Et puis, en temps de guerre, là, on va exciter les gens. On va les exciter, on va leur dire « ton ennemi, c'est celui-là ». Alors, on rentre pas dans les détails pour savoir si c'est un père de famille, s'il est marié, s'il a des enfants, et ça, s'il a 20 ans ou s'il a… Peu importe, on dit « c'est ton ennemi ». Alors c'est ton ennemi, c'est l'ennemi de ton peuple, c'est l'ennemi de ta patrie, il faut le tuer. C'est terrible une chose comme ça, et ça devient une propagande, ça devient un lavage de cerveau, et puis à partir du moment du premier coup de fusil, ça y est, c'est parti, hein, y a rien à faire, hein, parce qu'après c'est un engrenage, une spirale qui amène le mal, et qui amène encore plus de mal, et qui amène à, finalement, eh bien une catastrophe, hein, jusqu'à la destruction, et ça c'est quelque chose de terrible. Donc nous avons cette histoire, dans une famille, la première famille, c'était la première querelle. C'est terrible, hein. On comprend que les familles, c'est difficile, hein. La famille humaine est menacée tous les jours. Hein. On le voit dans le couple, on le voit dans les familles, entre les enfants et les parents, et vice-versa. Et c'était la première visée, c'est vrai. Et ça commençait comme ça, et ça nous laisse réfléchir, parce que on se dit, mais comment, normalement, une famille, c'est l'amour, hein. Parce qu'entre deux êtres qui se sont engagés l'un pour l'autre, la base c'est l'amour, hein, y a rien à faire, hein, on ne se marie pas parce que bon, on n'aime pas. Enfin, je comprends pas, moi, j'ai du mal à saisir tout cela. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, ça se dégénère, ça devient quelque chose d'impossible, à tel point que notre société en est pratiquement défigurée avec ça. Hein, hein. Regardez quand vous entendez les gens parler en disant « mais si j'avais su » et ceci et cela, qui sont pleins de remords, pleins de regrets, et puis avec les uns et les autres meurtris, blessés, voilà, et ce sont des vies, on peut dire, quelquefois qui sont gâchées, c'est terrible, sans parler eh bien des enfants qui sont les victimes de tout ça. Parce que là, bon, ils n'ont rien demandé naturellement. Alors, on voit que l'accent est mis, le projecteur est mis sur la famille humaine. Et puis, c'est une histoire, comme je l'ai dit, eh bien tout simplement d'offrande. Abel, qui offre un sacrifice de ses premiers-nés, il est berger. Alors lui, il va devoir faire le premier sacrifice. C'est une préfiguration, finalement, que pour le péché des hommes, parce que le péché a déjà été commis par Adam, hein. C'est la deuxième génération, ce sont les enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Et là, ils sont déjà sortis du paradis. Et comme le principe est le suivant, que la justice ne peut être satisfaite, la justice de Dieu, que s'il y a effusion de sang, alors c'est un animal qui va être offert en anticipation à ce que Jésus fera à la croix du calvaire. Et là, ça ne sera pas le sacrifice d'une bête pour le pardon des péchés, pour l'expiation du péché, mais ça sera pour le monde entier, ça sera total, complet, parfait. Et nous voyons que Caïn, lui, va se contenter d'aller dans son jardin, d'arracher quelques légumes et de dire « Seigneur, regarde les fruits, voilà, c'est mon travail, c'est mes œuvres !» Mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Comprenez là, hein ? Il y a quand même une petite différence qui est énorme. Parce que l'homme se sauve pas lui-même, et Caïn avait imaginé se sauver lui-même en offrant les fruits de son travail. Vous savez, toutes les religions humaines, chrétiennes ou non, ont emboîté le pas de Caïn. Il faut faire des œuvres. Il faut absolument, eh bien, que l'on mérite finalement le regard favorable de Dieu. Il faut se prêter à ceci, il faut ceci, cela, etc., etc. Alors qu'Abel, lui, a compris tout de suite, d'une manière innée, on pourrait dire d'une manière spontanée, que tout cela, quand l'homme est pécheur, quand il est perdu, c'est pas le mauvais qu'il y a en lui qui peut offrir à Dieu, parce que Dieu ne se plaît pas à recevoir du mauvais. Hein. Quelquefois, on entend les gens dire, eh bien, il y a encore quelque chose de bon, mais non, c'est une illusion. On est capable du bien, on est capable du bon, mais surtout ne l'offrons pas au Seigneur, puisque tout est imprégné du mal. Et c'est pas pour rien que le même apôtre Jean dira que le monde entier gît dans le malin. Vous l'avez ça dans la Bible, hein, c'est écrit. Donc, il n'y a aucun espoir de notre côté. Et Caïn s'était imaginé que lui, il pouvait faire les choses. Et c'est pas son frère qui l'a provoqué. C'est quand il a offert finalement son offrande des fruits de la terre, de son travail et de ses efforts, que Dieu n'a pas eu un regard favorable. Et c'est une forme de dépréciation. C'est une forme, finalement, eh bien, quelque part, il s'est senti, bien, quelque part rejeté. Parce que Dieu ne peut pas accepter ce qui vient de l'homme, puisque c'est mauvais par nature. Et pour cela, il faut un rédempteur. Pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Alors, les choses se sont passées de cette manière, et pourtant, il nous est simplement dit dans cette phrase, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. Il n'avait pas la faveur de Dieu. Pourquoi n'avait-il pas la faveur de Dieu? Il aurait pu l'avoir. Il aurait pu être comme son frère. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, déjà, il y avait cette semence mauvaise qui était en train de germer et qui allait enfanter le crime, qui allait aboutir au crime de son frère. Regardez, fut très irrité et son visage était abattu. Un regard sombre, morose. Vous savez, les gens qui font le mal, en principe, à moins que ce soit vraiment des virtuoses, de l'hypocrisie, de tout ce que vous voulez, quelquefois ils le portent déjà sur leur visage et dans leur regard. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Alors Dieu est venu vers Caïn et lui a dit, mais pourquoi tu es irrité? Donc la question est bien posée, mais pourquoi? Pourquoi cela? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et sans que Dieu attende la réponse de Caïn, il lui dira, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, l'homme, à ce moment-là, est placé devant un choix. Celui de véritablement être plus fort que le mal, qui est inhérent à la nature humaine. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu lui rappelle, il lui dit, mais voilà, c'est cette condition, mais tu peux, au lieu de choisir le mal, tu peux choisir le bien. Et on connaît ce qui s'est passé, parce que le texte nous rappelle un peu plus loin qu'il s'adressa donc à son frère Abel, et comme ils étaient dans la solitude, parce que les crimes se font toujours, hein, quand il n'y a pas de regard, quand il n'y a pas de témoin, alors il s'est jeté sur son frère et il le tua. Le premier meurtre. le sang qui arrose la terre. C'est la première fois que ça arrive. Mais je voudrais aller un peu plus loin, brièvement. Dans le principe même qui nous est rappelé cet après-midi à travers cette parole du décalogue, tu ne tueras point, ce que Jésus nous rapporte également dans le sermon sur la montagne, tu ne tueras point, pour nous montrer que aussitôt, sorti de la présence de Dieu, c'est-à-dire l'homme fuyant le jardin d'Éden, est privé des fruits de l'arbre de vie. Ouais. Parce que le principe de l'arbre de vie, c'était justement de prendre de ce fruit-là pour pouvoir vivre éternellement. Et il y avait naturellement, à côté, un choix. Et c'est le mauvais choix qui a été fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons que, à partir du moment où l'homme est chassé du jardin de l'Éden, il ne va plus avoir d'aliment spirituel. C'est-à-dire qu'il va perdre cette dimension qui lui a été donnée par son Créateur, non seulement d'une dimension physique, un corps, non seulement d'une dimension morale, âme, la pensée, l'intelligence, mais d'une dimension spirituelle. Et l'homme, en perdant cet aliment spirituel, va perdre complètement la notion de Dieu. Il va perdre la conscience de Dieu. Il va perdre la conscience, finalement, du bien. Et il appellera par la suite bien mal et mal bien. Ça va être une véritable confusion. Et nous voyons qu'à ce moment-là, l'humanité va prendre la pente, vous savez. Quelquefois, quand on voit les gens mal tournés, on dit... Il descend, hein. Eh ben, ça veut dire la même chose. On emploie dans toutes les langues du monde à peu près la même pensée, hein. Il prend la pente, vous comprenez? Alors aujourd'hui, si les hommes s'imaginent qu'ils vont décrocher le ciel et arriver au ciel par leurs efforts comme Caïn, ils n'y arriveront jamais. Parce que ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas avec nos forces, c'est pas avec nos efforts et tout ce que l'on voudra et nos sacrifices. Et puis, vous savez que quand une voiture un véhicule n'a plus de frein, eh bien, plus il descend, plus ça s'accélère. Hein. Et on s'aperçoit qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, eh bien, finalement, l'homme va de plus en plus vite. Il va de plus en plus vite dans les inventions du mal, devenant ingénieux au mal. C'est vrai qu'à travers tous les temps, l'homme a été cruel. Hier soir, je regardais, et je le disais à mon épouse, une émission qui était tout simplement une émission d'histoire sur la chute de Rome. Je me disais, mais heureusement qu'on n'a pas vécu à cette époque. Parce que fallait voir les renversements de palais, les révolutions, et puis les crimes, etc., etc. Alors c'est vrai que quand on y regarde bien, on se dit, mais notre temps, il n'est pas mieux. Hein. Parce que là, on n'y va peut-être plus avec l'arme blanche et avec l'épée, mais c'est le tapis de bombe. Hein. Malheureusement, on sait ce que peuvent souffrir certains peuples aujourd'hui, hein, sous les bombes, sous les canons, sous les tanks, etc., etc. Et c'est la même chose. Ah, ça se fait d'une autre manière, mais le sang coule, hein, tout pareil. Alors, on s'aperçoit que plus on va, plus les hommes sont ingénieux. Voulant détruire la guerre, voulant détruire le mal, finalement, ils ne font que l'amplifier avec les moyens qu'ils se donnent pour contrer et pour se défendre contre cela. Et les inventions deviennent ahurissantes. Hein. Bon, l'histoire de la bombe atomique est quand même quelque chose, et on n'a pas tout vu, je ne sais pas, hein, on en est là aujourd'hui, mais quelle puissance de destruction et quelle haine! Les hommes ont les uns contre les autres. Quand on voit le racisme, quand on voit quand on voit cette détermination à éliminer une nation, hein, et ça c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 4000 ans que ça dure, hein, donc ils sont tenaces les ennemis, hein, on peut pas dire. Hein. Et quelquefois, ce sont les ethnies entre elles, ce sont des factions dans un peuple ou dans une nation qui s'entretuent, hein, c'est ce qui se passe en Syrie actuellement, hein, ou des questions de religion, parce que bon, souvent, c'est pas très loin tout cela. Alors on s'aperçoit que la chute s'accélère. Je voudrais simplement vous rappeler que l'humanité, donc, le premier homme, a répudié la loi d'amour, parce que c'était la loi de la création. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans son amour, et avec un lien qui était la confiance réciproque, ce qu'on pourrait appeler la fidélité, la foi. Voilà. Il n'y avait pas l'ombre. Il n'y avait pas d'obscurité. C'était véritablement ce que nous ne pouvons pas nous imaginer aujourd'hui, le monde de l'Éden. Parce que c'est pas possible de se l'imaginer, puisque nous sommes dans le monde contraire. Et c'est vrai que Adam, a répudié la loi de l'amour pour choisir la loi de la haine. Et du doute. Et de l'incrédulité contre son créateur. Mais par contre, comme je vous ai dit que la pente s'accélère, finalement, le second, c'est-à-dire Caïn, le fils d'Adam, Eh bien, le second instaure la loi du plus fort, qui, paraît-il, est toujours la meilleure, selon monsieur de La Fontaine. Voilà. Hein? Alors, voilà, la loi de l'amour évacuée, maintenant c'est la loi du plus fort. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons. Hein? C'est terrible, hein? Parce que si vous montrez pas les dents et montrez pas les poings, ben vous y arriverez jamais. Hein? Il faut évacuer, il faut éliminer. Le premier homme, Adam, s'est montré un mauvais fils. Ouais. Parce que finalement, eh bien, il n'a pas été digne de ce Dieu, ce Père céleste qui l'avait créé. Par contre, eh bien, le deuxième homme, Caïn, devient le meurtrier de son frère. Vous vous rendez compte? Il y en a un qui trahit au ciel, Adam trahit le ciel, et là, le deuxième sur la terre va trahir son frère, qui est aussi sur la terre. Le premier va confesser sa faute, parce que quand Dieu va appeler Adam dans le jardin d'Éden, où es-tu? Où te caches-tu? Eh bien, il va dire, ben oui, mais je suis nu, je suis ceci et cela, voilà. Donc, il va confesser sa faute. Mais le second va masquer finalement son crime et son mensonge par le mensonge. Va masquer son crime, pardon, par le mensonge. Donc il va tomber dans ce carcan de dissimulation et il va mentir. Le premier homme a fait maudire la terre, puisque c'est ce que nous lisons dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Le second se fait maudire par la terre. Ouais. Parce qu'il nous est dit, et on peut le lire, hein, l'Éternel dit à Caïn, c'est la suite au verset 9, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Donc là, il ment, hein. C'est visible, parce qu'il savait très bien où il était, puisqu'il l'avait tué, et il l'avait certainement dissimulé dans la terre. Et Dieu lui dit, « Mais qu'as-tu fait ?» Et comme on ne trompe jamais Dieu, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me saches aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » Ce qui est tout à fait logique, hein, puisqu'il avait tué lui-même. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Ça, c'est la loi du talion qui commence. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Alors on s'aperçoit qu'il y a là comme une dégringolade qui s'accentue de plus en plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le premier n'a pas pu rester dans l'Éden, Adam, puisqu'il nous a dit que Dieu l'a chassé, et puis le second est obligé de fuir sur cette terre complètement inconnue, cette terre hostile, cette terre qui, finalement, eh bien, le menace de l'engloutir et de le tuer à chaque instant. Imaginez-vous, découverte de la peur permanente. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Nous apercevons que plus les choses vont, plus Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel, plus il s'en va errer dans des contrées stériles. Et vous savez, c'est l'image de l'humanité qui va, qui vient, qui cherche, qui ne trouve pas, et qui est là dans une misère profonde, avec le désespoir, avec les angoisses, avec toutes sortes de choses. C'est notre humanité. On n'en serait pas là aujourd'hui. Les gens sont pris d'angoisse, ils sont pris de tourments. Leur sommeil est troublé, enfin, c'est une vie où il n'y a pas de repos. Repos de l'âme, même repos du corps. Quant à l'esprit, c'est autre chose. Et nous voyons que plus les choses vont aller, plus la descendance de Caïn va perdre la notion de Dieu, la souvenance de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul pourra dire, enfin, ça fait déjà 2 siècles, il parlera que l'homme, finalement, eh bien, est privé d'intelligence. Il n'a plus la connaissance de Dieu, il ne sait plus qui est Dieu. À tel point pour se donner lui-même comme descendant, eh bien, la race animale, hein, le singe ou tout ce que vous voudrez, faisant des comparaisons qui sont un véritable outrage à Dieu. Donc, il y a une perte de connaissance. La vision de Dieu n'existe plus dans notre monde. Voilà où se donnent des faux dieux, toutes sortes de choses. Et on s'aperçoit qu'après la faute initiale, la déchéance, et cette déchéance se précipite comme une catastrophe. Et quand on considère l'histoire de l'homme sur la terre, quand on considère la misère de l'homme, sa misère, on se dit, mais c'était vraiment pas ce que Dieu voulait au départ. À tel point que l'homme, ne comprenant pas sa destinée et sa situation, le sens de sa vie, de son existence, s'il lui reste un tant soit peu de notion de Dieu, va faire de Dieu le coupable. Vous avez remarqué qu'il y a dans notre phraseologie beaucoup d'imprécations, beaucoup de jurons qui s'en prennent à Dieu pour en faire le coupable, mais jamais le diable. J'ai jamais rarement entendu au nom du diable. Les gens ne jurent pas au nom du diable. Parce qu'ils sont de son côté. Et on ne prononce pas cela. On ne dit pas cela. Parce qu'il y a un principe, puisque je vous parlais de pente, d'une manière infaillible. Quand on descend du sommet, eh bien, on s'éloigne finalement du ciel. Et on descend dans les précipices, dans les ténèbres. Et c'est comme cela que l'homme est arrivé où il en est rendu. Parce qu'il fuit Dieu, et quand on fuit son créateur, quand on fuit celui qui est à l'origine de notre humanité, on tombe dans l'animalité. Et les hommes se comportent, se sont comportés avec leurs semblables, à travers les guerres, ou à travers la sauvagerie, à travers la brutalité, comme des animaux. Et je dirais même pas comme des animaux, parce que quand vous avez affaire à un lion ou un tigre, ou un animal sauvage, lui, il le fait par instinct pour manger. Mais l'homme, il tue par plaisir, pour détruire, pour éliminer, pour se venger. Et ça, c'est terrible. Et je pense que c'est encore plus bas quand on sait que ce que l'homme a pu inventer pour faire souffrir, pour torturer, pour faire avouer, pour concevoir des usines à une dimension industrielle pour éliminer des, non pas des milliers, mais des millions et des millions de personnes, on se dit, mais c'est autre chose que l'animal. Alors, on tombe encore plus bas à ce moment-là. Puis simplement, je voudrais terminer pour montrer que ça, c'est le regard que nous pouvons avoir sur le monde tel qu'il est. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que Dieu n'a pas laissé cette humanité sans secours et sans possibilité. Certains ont dit, il y avait le plan A. Le plan A, eh bien, c'était que Dieu avait raté les choses. Et qu'à travers ce ratage, l'humanité a échappé à son créateur, et que maintenant il y a un plan B. Il n'y a jamais eu de plan A, il n'y a jamais eu de plan B. Il y a un plan. Et ce plan, il s'appelle le plan de salut. Et tout cela, Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour donner à l'homme, eh bien, la liberté de choisir ce qui est bien, ou de faire le choix du mal, mais par lui-même. En fonction, finalement, eh bien, de sa conscience. Et on pourrait dire simplement que l'homme a pris la mauvaise direction. À cause de ce qu'il n'a pas tenu compte quand Dieu a dit à Caïn, eh bien, si tu agis bien, alors à ce moment-là, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais on s'aperçoit que la propension humaine a été beaucoup plus d'écouter la voix du mal, parce que c'est une voix qui descend, c'est une voix qui nous amène à descendre, et c'est plus facile de descendre que de monter. Une pente, c'est plus facile à la descendre que de monter, vous comprenez? Si vous avez fait un peu d'ascension, ben, on comprend, hein. Maintenant, quelquefois, on peut descendre très vite, hein, puis on peut se faire beaucoup de mal en descendant, hein. Et c'est un petit peu l'histoire des hommes qui se sont fait beaucoup de mal en descendant. Et on s'aperçoit qu'il y a une mauvaise direction qui a été prise. Et on pourrait seulement, à l'instar de l'apôtre Paul qui dit que, à partir d'un seul homme, toute l'humanité a été contaminée par ce virus, par cette corruption intérieure, et que nous sommes tous désormais embarqués dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Il n'y a pas une religion qui pourrait se prévaloir de finalement, eh bien, là, de dire, eh bien, il n'y a que par nous que vous pouvez être sauvés. Tous, d'une manière ou d'une autre. Et on s'aperçoit que dans ce bateau qui est l'humanité, eh bien, l'humanité se dirige vers les écueils. Vers un écueil catastrophique, hein, on le sait très bien, hein. Il y a eu déjà successivement dans l'histoire de l'humanité, de l'homme, eh bien des catastrophes, des civilisations, des sociétés qui ont disparu. C'est ce qui a fait finalement notre histoire. Mais il arrivera un moment, nous dit le livre de l'Apocalypse, où là les choses seront définitives. Et je ne sais pas dans quel temps nous sommes. Enfin, on peut déjà pressentir que le Seigneur revient bientôt et qu'il va y avoir les pendules qui vont être remises à l'heure parce qu'il nous est parlé d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel et que les choses seront tout à fait différentes. Et que le paradis perdu, eh bien, il sera retrouvé. Il y aura une porte nouvelle qui nous fera rentrer dans la communion avec Dieu, comme cela a été au départ, mais avec une dimension parfaite. Et ça, c'est l'espérance des chrétiens. Et pour vous parler de ce fameux bateau qui va vers les écueils et qui va se précipiter, eh bien, il faut que ce même bateau change de direction Et il faut bien comprendre une chose, que pour changer de direction, il faut changer de pilote. Et si c'est l'homme qui conduit, il va inexorablement aller véritablement vers la destruction. Mais c'est là où intervient finalement le plan de salut de Dieu, c'est qu'il nous offre un pilote pour monter dans le bateau. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons nous représenter en tant qu'humains, eh bien, nous avons à choisir personnellement. Et dans notre bateau, comment menons-nous notre barque? Sur quel flot, sur quel océan, sur quelle mer naviguons-nous? Il y a des mers, elles sont toujours agitées, ça c'est certain. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous avons choisi, et si nous choisissons de prendre le pilote que Dieu nous propose, alors à ce moment-là, ça changera. Quand nous voyons tous ces grandes concertations et conférences au sommet mondial, je me dis, mais Seigneur, parmi ces hommes d'État, mais est-ce qu'il y en a qui croient en Dieu dans tout ça? Surtout quand il y en a certains qui disent ouvertement qu'ils ne croient pas en Dieu. Qui sont peut-être plus à consulter l'occultisme, la magie et toutes sortes de choses pour leurs pronostics, et pour la direction d'un peuple et tout ça, et on se dit, mais Seigneur, quelle inspiration! Quelle inspiration! Ouais. Et je crois que le monde ne prend pas cette direction. Ce serait plutôt le contraire. Alors, si ça ne peut pas se faire sur le plan collectif et général, ça se fait sur le plan individuel. Chaque homme qui rencontre Jésus et qui l'invite dans sa vie, eh bien, choisit le pilote que Dieu nous a assigné. Et là, nous pouvons être sûrs. Et Jésus nous dit, sans avoir le moindre doute, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et là, c'est à ce moment-là que nous amorçons le retour et que nous pouvons atteindre le port qui est celui en haut, au ciel, avec la promesse de la vie éternelle, le pardon de nos péchés, une vie nouvelle. Et là, à ce moment-là, il nous est bien dit que dans cette dimension-là, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus le crime, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus toutes ces souffrances, parce que nous aurons changé de pilote. Et c'est l'offre du salut. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, vous savez que Caïn, il nous a joué un mauvais tour, et même Adam. Parce que c'est terrible, cela. Le monde vit beaucoup plus animé par ses haines que par l'amour. On fait des écoles, on construit des écoles, on crée des écoles pour apprendre à tuer, mais pas des écoles pour apprendre à aimer. C'est terrible, ça. Ouais. Vous avez vu des collèges ou des lycées ou des universités pour apprendre à aimer? Non? Il y a des écoles militaires, il y a des écoles de ceci, des écoles de ça, où on construit, on fait toutes sortes de choses, quelquefois dans un sens bénéfique, mais quelquefois c'est tout à fait à l'inverse. Alors, il y a une école qui nous est donnée. C'est l'école de l'histoire, c'est l'école de l'histoire de Dieu, c'est l'école de l'histoire de l'homme, où nous sommes invités finalement, eh bien là, à changer de bateau, et à avoir le bon pilote qui va nous conduire jusqu'au bout. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, parce que ça, c'est quelque chose d'important, et à ce moment-là, ces paroles que Jésus nous laisse, que Moïse nous laisse dans le décalogue, tu ne tueras point, ça n'existera plus. Imaginez-vous un monde sans crime, un monde sans haine, un monde sans colère, un monde sans violence, un monde sans prison, un monde sans gendarmes, un monde sans tribunal. Ben dites donc, est-ce qu'on va s'ennuyer, Bon, ben oui, mais pourtant on est habitué à tout ça, Regardez les gens qui sont friands des journaux comme... je ne vais pas citer les noms parce que je vais faire de la publicité. Il y a des journaux, vous savez, les papiers là qui se vendent et qui... Les gens sont friands de voir un peu des choses qui ne sont que mensongères et qui se nourrissent avec des choses sordides. Les gens courent et il paraît que ça n'a jamais aussi bien marché ce genre de journaux de presse. Parce que les gens sont croustillants, ils cherchent ce qui croustille, vous comprenez? Ils sont tellement habitués à ces choses terribles. Ouais. Quelle histoire que notre monde, que de pleurs, que de sang, que de choses abominables. Et pourtant, au départ, le Seigneur voulait véritablement que son humanité soit différente. C'est pourquoi il nous a dit, je vous donne le plus grand et le plus beau de tous les commandements, d'aimer l'Éternel votre Dieu, et le second commandement qui lui ressemble, d'aimer votre prochain comme vous-même. Alors quand on a appris ça, on a tout appris. Et tout a commencé avec l'histoire de Caïn. C'est curieux, tout cela. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous donne de regarder vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, eh bien, merci de nous avoir donné un pilote. Ouais, merci de nous avoir donné le véritable pilote qui va nous conduire jusqu'au terme et nous voulons lui faire confiance parce que c'est lui qui saura nous mener jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.